Chapitre 13. Je jure avec solennité de veiller à chaque instant sur le fouineur dont j'aurai la charge, de suivre avec la plus grande vigilance ses évolutions dans la cité unifiée, de le prévenir et d'avertir sa hiérarchie en cas de danger. Extrait du serment des Gémines de Paris. Cité unifiée de Nilopa. Certains prétendent que les Gémines étaient entièrement dévouées aux municipalités. Je n'en crois rien. À leur manière, elles étaient de véritables protectrices pour les fouineurs, qu'elles suivaient à chaque instant sur les cartes lumineuses de Paris. Elles jouaient pour nous le rôle d'ange gardien. Les interventions de ma Gémine m'ont souvent tiré des nasses où je m'étais fourvoyé. Elle s'inquiétait de mon sort dès qu'elle constatait une baisse de luminosité du point qui me représentait. M'appelait aussitôt sur mon biophone en me demandant si tout allait bien. Même lorsque j'étais cerné par plusieurs plombeurs ou d'autres cinglés du même acabit, j'ai toujours réussi à lui faire comprendre quand j'avais besoin d'aide, et elle s'est arrangée pour prévenir les collègues ou les flics les plus proches. Je ne l'ai jamais rencontrée au nom de ce vieux principe qui veut que jamais un fouineur ne doit nouer de relation avec sa Gémine. Je le regrette aujourd'hui. J'aurais bien aimé voir à quoi ressemblait la voix douce qui m'a parfois repêché dans les eaux noires et putrides de la cité. Ganesh reprit conscience. Il voulut passer la main sur son visage, ainsi qu'il le faisait chaque fois qu'il se réveillait. Mais il était ficelé et attaché à un pilier métallique. Gorge sèche, bouche pâteuse, corps lourd, pensée embrouillée, il avait la sensation de se réveiller d'une soirée arrosée ou d'une anesthésie. Il aperçut entre ses paupières mi-closes deux hommes, assis un peu plus loin, occupés à fumer une cigarette, pistolet mitrailleur posé sur les cuisses. Ses souvenirs lui revinrent peu à peu. Leito Mercante ne lui avait rien révélé d'important, mais ses explications fumeuses avaient laissé à ses gardes du corps le temps d'intervenir.
« Il revient à lui !» fit l'un d'eux. « Fais gaffe, ce mec est dangereux !» grogna l'autre. « Vu comment il est attaché, on risque pas grand-chose. »
« T'oublies que c'est un putain de fouineur. Si son Taz ne s'était pas enrayé, il nous aurait neutralisé, comme Barnes. »«
Comme ce crétin de Barnes, tu veux dire ?»« Bah, fouineur ou pas, je donne pas cher de sa peau. »
Ganesh avait, par réflexe, plongé derrière un canapé et ouvert le feu après l'irruption des hommes de Mercante. Il en avait touché un à la tête, puis son Taz n'avait plus craché qu'un mince filet lumineux, comme si la batterie s'était subitement déchargée. Il avait couru vers la porte la plus proche, mais un rayon l'avait cueilli entre les omoplates. Il était conscient lorsqu'on lui avait planté une aiguille dans le ventre et inoculé un anesthésiant.
« Pourquoi Harriman ne nous a pas ordonné de le tuer ?» reprit l'un des hommes. « Il veut l'interroger. Un fouineur n'agit jamais seul. »«
Ah bon ? Je croyais qu'Harriman et les autres contrôlaient les fouineurs. »«
Il y a des dissidents, comme toujours. Des petits malins qui n'en font qu'à leur tête. Et celui-là en fait partie. Faut les éliminer avant qu'ils ne foutent la merde. »
L'homme se leva et s'approcha de Ganesh.
Hey, « Hé, toi, me regarde pas comme ça !»
Il lui décocha un coup de pied dans les côtes. Ganesh gémit.
« Baisse les yeux, je te dis !»
Mais les paupières de Ganesh ne lui obéissaient pas. Son corps lui paraissait lointain, comme étranger. La douleur semblait elle-même extérieure, presque abstraite.
« Laisse-lui quelques dents pour qu'il puisse parler !»
intervint le deuxième garde du corps.
« Il est passé où, Harriman ?»«
Il a dit qu'il avait des trucs à régler et qu'il revenait dans une heure. »
« Tu crois qu'un jour la main noire prendra le contrôle de la cité unifiée ?» Le premier garde du corps revint s'asseoir près de son confrère.
« C'est programmé. On sera là pour la bataille finale, la bataille de l'Armageddon. »«
Ouais, mais les ombres, elles viennent d'où ?»«
T'inquiète pas pour ça. Même si les grands prêtres ne l'ont pas dit, je suis certain qu'elles font partie du plan. »«
Demande d'autorisation de passer en mode direct contrôle. »« Demande d'autorisation de passer en mode direct contrôle. » Qu'est-ce que ça changera ?
Quand la main noire sera au pouvoir, elle accomplira ce qui aurait dû être accompli depuis longtemps, poursuivit le premier garde du corps. Nettoyer le pays hors site et rouvrir les cités unifiées pour préparer l'avènement de celui que nous attendons.
Possibilité actuelle de briser les liens, nulle. Pourcentage estimé en mode direct contrôle, 53%. Autorisation accordée. Passage en MDC dans 28 minutes. Temps de dissipation des effets de l'anesthésiant.
C'est maintenant que nous allons voir si la nouvelle biopuce est aussi performante que nous le pensons, déclara Caton, une pincée d'excitation dans sa voix habituellement neutre.
Vous m'obligez sans cesse à violer mon serment de Gémine, monsieur,
Mina commençait à haïr sa cabine, haïr son métier, haïr ce qu'elle était devenue.
Vous êtes une fonctionnaire, mademoiselle. Vous n'avez de compte à rendre qu'à votre supérieur hiérarchique.
Je m'étonne que vous connaissiez aussi mal les principes du corps des Gémines. Ils relèvent pourtant de votre administration. Caton se fendit d'un soupir d'agacement.
Je ne m'embarrasse pas de principes. Ils ne me sont d'aucune utilité.
Mina fixa la carte lumineuse du secteur de Paris. Le point lumineux de Ganesh Parvati n'était toujours pas réapparu. 2 heures que le contact n'était pas rétabli. Elle craignait le pire. Ses consoeurs plus anciennes l'avaient prévenue. Perdre son fouineur était une épreuve aussi douloureuse que perdre un proche. Si les Gémines ne prêtaient pas le serment de veiller chaque heure du jour et de la nuit sur les fouineurs, la sécurité de la cité unifiée serait menacée. Les larmes lui étaient venues aux yeux en prononçant ces mots. Elle n'aurait jamais pensé que Ganesh Parvati lui manquerait à ce point. Caton, lui, accordait aux fouineurs la même considération qu'à un rat de laboratoire.
« De quoi vous plaignez-vous ? Vous veillez nuit et jour sur le fouineur Ganesh Parvati, » reprit Caton. « Je suis censé le prévenir en cas de danger. Or, vous m'interdisez formellement de le contacter lorsque sa vie est menacée. J'ai perdu sa trace depuis 2h27. Je m'inquiète à son propos. Nous menons une expérience, mademoiselle. »
Je sais, la nouvelle biopuce, la nouvelle espèce humaine, le nouvel être, la nouvelle ère. Ce que vous m'obligez à faire ne me plaît pas. »
Elle prit une profonde inspiration avant de se lancer.
« Je demande à être relevé de mes fonctions. »
« Absolument hors de question, mademoiselle. » La voix de Caton était devenue menaçante.
« Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas... dormi. Vous m'avez vous-même certifié que vous n'en aviez pas besoin avec les nano-neurocorrecteurs.
Vous prendrez de longues vacances quand nous aurons jugé l'expérience concluante. »
Mina s'enracina dans sa détermination.
« Vous ne m'avez pas bien comprise, monsieur. Je demande à être relevé de mes fonctions maintenant. Je vous donne ma démission. C'est ma liberté de fonctionnaire de la cité. »
« Vous ne m'avez pas bien compris, vous non plus, »
rétorqua Caton d'un ton qui n'admettait aucune réplique.
« Vous resterez à votre poste jusqu'à ce que je décide du contraire. »
Les yeux de Mina se heurtèrent aux parois nano de sa cabine. Un mois complet qu'elle était contrôlée par les nanocorrecteurs. Un mois qu'elle s'immergeait dans les données des matrices de la cité. Un mois que son corps n'existait plus. Un mois qu'elle n'ingérait plus rien, qu'elle n'expulsait plus rien. Un mois qu'elle vivait suspendue au souffle de son protégé Ganesh Parvati. Un mois qu'elle endurait les communications et le cynisme de Caton.
« Je suis votre prisonnière, si je comprends bien. »
« Disons que vous êtes réquisitionné pour la bonne cause et que vous serez récompensé à la hauteur de ce que vous méritez. »
Théodore entra dans le bureau avec la mine chiffonnée qu'il arborait certains matins, comme s'il était victime d'insomnie, qu'il avait la gueule de bois ou encore qu'il avait passé toute la nuit à filer un suspect. Il ressemblait parfois à un loup famélique, avec le poil qui lui roussissait les joues et ses yeux renfoncés et luisants. Son chapeau ne parvenait pas à lui donner une apparence humaine. Son intuition soufflait à Ava qu'il trimbalait de lourds et inavouables secrets.
« Toujours pas de nouvelles de Ganesh ?»
grommela-t-il en posant son éternel imperméable sur le perroquet.
« Non. De toute façon, je serais bien la dernière à en avoir. »«
Pas si sûr. L'humanité ne fait pas souvent bon ménage avec la logique. »
Il alla, comme chaque matin, jeter un coup d'œil sur l'écran de l'archiviste.
« Je suis inquiet. » D'après ce que m'a dit la Gémine, Ganesh fait l'objet d'un traitement spécial. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Faudrait demander à nos supérieurs hiérarchiques, mais ils devineraient que j'ai contacté les Gémines et je ne tiens pas à leur révéler mes petits secrets.
Même pour sauver la vie d'un collègue?
Ce serait de toute façon inutile. Si ces supérieurs obligent la Gémine de Ganesh à garder le silence, nous n'apprendrons rien de plus par la voie hiérarchique. Il nous faut patienter.
Ava non plus n'avait pas bien dormi. Elle avait rêvé depuis l'âge de 5 ans d'intégrer le corps des fouineurs, et elle se rendait compte, depuis le début de son stage, qu'ils n'étaient que des humains comme les autres, avec leurs limites, leurs doutes, leurs erreurs, leurs états d'âme. Elle avait roulé de sombres pensées toute la nuit, se demandant si elle ne devait pas démissionner avant de recevoir la biopuce analytique et de se condamner à une vie de solitude et de souffrance. Son dernier petit ami s'était enfui comme un voleur lorsqu'elle lui avait annoncé sa prochaine admission dans le corps des fouineurs.
« J'ai l'impression que la patience n'est pas votre fort. »«
Chacun ses défauts, » riposta Théo. « Toi, par exemple,
Tu manques un peu de diplomatie. »
Il s'enfonça dans une inertie boudeuse, dont il ne sortit, 10 minutes plus tard, que pour aller préparer du thé dans le coin cuisine.
Il y a eu une nouvelle attaque des ombres cette nuit, dans le nord de Paris, déclara Ava.
1700 morts. La population est au bord de l'explosion. Qu'est-ce que ça donne, vos recherches ?
Elle avait allumé son écran mural vers 3 heures du matin et suivi les informations en boucle jusqu'à 6 heures.
Théodore mit longtemps à répondre, le temps d'évacuer sa mauvaise humeur.
Une piste qui mène à New York. Je compte m'y rendre, mais sans demander d'autorisation à la hiérarchie.
Pourquoi ?
Je n'ai plus confiance en personne.
Pourquoi me le dites-vous à moi ?
Théodore fouilla dans un tiroir. En sortit un paquet de cigarettes, en coinça 2 entre ses lèvres, les alluma à l'aide d'un briquet et en tendit une à Ava.
Tu n'as pas reçu ta biopuce analytique. On ne peut pas encore se servir de toi pour m'espionner.
Ava tira avec gourmandise sur sa cigarette. Son cerveau flotta aussitôt dans l'euphorie fallacieuse du tabac.
Putain, ça vire à la paranoïa dans le coin, maugréa-t-elle. Il me semble pourtant qu'il y a d'autres priorités que se tirer dans les pattes.
Certains se servent du phénomène des ombres. Ils l'ont peut-être même créé de toutes pièces pour parvenir à leur fin.
Faudrait être complètement barge, cynique, allumé, fanatique, tout ça à la fois.
Un vieux proverbe dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne s'étripe pas pour le pouvoir sans causer des dommages collatéraux.
Ava éventa d'un geste de la main le nuage de fumée qui s'était formé devant elle.
30 ou 40 000 morts, je n'appelle pas ça un dommage collatéral.
Théodore versa le thé dans les 2 tasses qu'il n'avait pas pris soin de rincer.
Plus les enjeux sont énormes, plus les dégâts sont importants. Je crois qu'une lutte fondamentale est engagée, qui débouchera sur une nouvelle organisation de la cité, mais je ne sais pas encore qui sont les véritables protagonistes. Voilà pourquoi les enquêtes doivent être autant que possible menées dans l'ombre. Je prends mes précautions. Il ne s'agit pas de parano.
Je peux aller à New York avec vous ?
J'aime mieux pas. Si tu veux faire carrière dans le corps des fouineurs, vaudrait mieux pour toi ne pas t'aventurer sur des voies illégales avant même d'avoir reçu ta biopuce.
Justement, je serais pas tracé, argumenta Ava.
Tu l'es de toute façon, surtout en tant qu'aspirante fouine. On t'a équipé d'une biopuce à la naissance, comme tous les citadins.
Ava écrasa rageusement sa cigarette dans la barquette en aluminium qui faisait office de cendrier.
Fais chier ! J'ai pas envie qu'on me plante comme une potiche dans un coin de bureau.
Théodore sauta sur l'occasion de prendre sa revanche.
La patience n'est pas non plus ton fort, ma belle.
Un vieux fond de défiance envers la technologie nous a empêchés de mesurer la puissance réelle des biopuces. Si nous nous étions vraiment penchés sur le sujet, nous y aurions pourtant puisé des informations passionnantes, essentielles. Nous apportait-elle un surcroît de sécurité et de puissance, ou au contraire, nous affaiblissait-elle en nous rendant dépendants d'elle? On prétend que l'être humain n'utilise qu'une faible partie de son cerveau. Aurions-nous optimisé notre potentiel cérébral si nous avions refusé de recourir aux biopuces? À ces questions, nul ne peut apporter de réponse. Nous pouvons seulement affirmer qu'il faut parfois se brûler pour apprendre à se méfier du feu.
Qu'est-ce qu'il fout, Harriman ?
Grogna un garde du corps.
« Devrait pas tarder à arriver, »
marmonna l'autre.
« Et Barne, est toujours pas rétabli ?»
La décharge du TAS l'a paralysé pour 2 bonnes heures. Il lui reste encore quelques minutes avant de pouvoir bouger normalement.
Il se fera un plaisir de liquider lui-même cet enfoiré. Crois-moi, il saura faire durer le plaisir.
Mode direct contrôle activé. Mode direct contrôle activé.
Que dois-je faire ?
Rien. Prise de contrôle de leur puce.
S'ils sont neutralisés, comment pourrais-je me détacher ?
Prise de contrôle de leur puce.
Il a l'air tout bizarre, le fouineur, s'exclama l'un des gardes du corps. On dirait qu'il a changé de tête.
Tous cinglés, ces putains de fantômes.
Ganesh perçut d'abord un bruit intérieur semblable à une stridulation. Il eut la désagréable impression que ses pensées ne lui appartenaient plus, ou plutôt que, reléguées au second plan, elles ne résonnaient plus que comme une lointaine rumeur. L'impression que son individualité s'estompait, qu'il n'était plus qu'un véhicule pour une autre pensée, un autre centre de décision. Il eut encore la force de se promettre de ne plus jamais abandonner les rênes du contrôle à sa biopuce.
« Je sais pas ce que j'ai, » bredouilla un garde du corps. « J'ai mal au crâne tout à coup. »
L'autre porta également la main à son front.
On dirait une attaque virale. Impossible, nos puces sont cryptées. Qui pourrait nous ?
Le premier garde du corps réussit à se relever et à marcher d'un pas titubant en direction de Ganesh.
« Le fouineur !» fulmina-t-il. « Ça vient de lui. Il faut le descendre. Ahriman nous a ordonné de le garder en vie. Rien à foutre d'Ahriman !»
Le garde du corps déverrouilla le cran de sûreté du pistolet mitrailleur et en pointa le canon sur la tête de Ganesh. « Je croyais que nous contrôlions leurs puces. » Le premier cryptage en cachait un deuxième, qui s'est activé. Besoin de temps pour le neutraliser. Le garde du corps vacilla. Son index se crispa sur la détente de son arme. Ganesh fixa avec inquiétude l'œil noir du canon flottant une trentaine de centimètres au-dessus de son front.
« Faut le flinguer tout de suite avant que... »
Les membres de la fraternité sont au complet, déclara le frère chargé de la session. En tant que président, je déclare la communication ouverte. Quel frère souhaite prendre la parole?
Moi, si vous le permettez. Nos dernières informations font état d'une offensive imminente et concertée des mairies de New York et de Londres.
Quel genre d'offensive?
Les deux municipalités se sont accordées pour exiger la loi d'exception et le transfert des pleins pouvoirs sur le territoire de Londres.
Nous ne pouvons pas nous y opposer?
Sur le plan légal, non. Ils exhumeront un article de la Constitution de la CU, le 72A, qui prévoit qu'en cas de menace avérée et grave, les pouvoirs politiques et militaires peuvent être concentrés dans les mains d'un seul maire.
Curieux. J'aurais pensé qu'ils échoueraient dans les seules mains du maire de New York.
C'est bien ce qui se passera. En contrepartie, Londres a obtenu d'héberger le siège du futur gouvernement d'exception.
La menace invoquée, ce sont les ombres, je suppose.
S'il n'y avait pas eu les ombres, ils auraient trouvé un autre adversaire. Il leur fallait un ennemi. Les ombres sont arrivées à point nommé.
Ont-ils eux-mêmes créé la menace?
Je ne le crois pas. Ils ont plutôt pris le train en marche. Mais ils sont loin de maîtriser le phénomène. C'est ce qui a provoqué la dissidence d'une partie des grubs. Ceux-là pensaient, devrais-je dire, car on les a éliminés, que les ombres représentent un danger extrême, une sorte d'apocalypse.
Le genre de propos qui pourrait justement être tenu par une secte apocalyptique.
Quelle secte, même la plus puissante, aurait les moyens de faire près de 50 000 morts en un laps de temps aussi court sans laisser aucune trace?
Si seulement nous avions la réponse à cette question. Maintenant, il faut trouver tous les moyens légaux susceptibles de déjouer les manœuvres des municipalités de Londres et New York.
Je m'en occupe. Je vais éplucher les textes fondateurs et les divers amendements de la cité.
Gardez ceci à l'esprit. Une fois que le maire de New York aura obtenu les pleins pouvoirs, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Et la cité unifiée se transformera en cité unique.
La pire chose qui puisse arriver à un être humain n'est pas la maladie ou l'esclavage. C'est de se retrouver seul au temps de sa vieillesse. Alors il n'y aura plus une âme charitable pour prendre soin de lui. Alors il mourra dans un dénuement tel que les rats eux-mêmes ne trouveront plus rien à manger sur son cadavre. Proverbe de Trois Aubes. Pays hors site.
Rien ne liait entre elles les agglomérations des bords des fleuves. Les dernières réserves de carburant s'épuisaient à parcourir les courtes distances d'un quartier à l'autre. Chasser les tribus sauvages dans la forêt, renforcer l'armée d'un clan en temps de guerre, affirmer sa puissance, jamais affranchir les dizaines de kilomètres qui séparaient les villes. Il y avait bien assez à faire avec la quête quotidienne de nourriture et d'eau potable, avec la lutte contre les parasites, rats ou moustiques mutants, les règlements de compte, les maladies et les épidémies de toutes sortes, pour songer à aller voir ailleurs. On peut en conclure que les agglomérations du pays hors-site étaient autarciques, refermées sur elles-mêmes au point de développer une consanguinité qui accélérait le processus de dégénérescence. Les clans n'étaient pas qu'un ersatz d'organisation sociale dans un univers chaotique, mais également une tentative inconsciente d'éviter la proximité génétique. Selon certains colporteurs, des régions entières de l'ancienne Europe étaient complètement désertes, trop empoisonnées par l'atome et les molécules chimiques pour que la vie puisse s'y établir et s'y développer durablement. Nul n'a jamais conçu une cartographie fiable du pays hors-site, mais il est fort probable que les endroits les moins peuplés soient ceux-là même où se sont déroulées les batailles de la Grande Guerre. On n'a jamais recensé les populations qui vivaient en dehors des cités unifiées. Plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers? Je les estime pour ma part à un peu moins d'un million sur le territoire de l'Europe, disséminés dans un environnement dévasté, mortifère.
La végétation et les insectes avaient continué de proliférer, s'adaptant à une vitesse étonnante, mais l'eau et l'air étaient devenus toxiques pour une créature aussi fragile que l'être humain. Le tunnel débouchait sur une clairière habillée d'une herbe brune et rêche, qui n'inspirait aucune confiance. Les jambes tétanisées, Naya déposa Yosp sur un rocher rond pour reprendre des forces. Elle avait couru sans interruption, jusqu'au cercle livide de l'issue de la galerie. L'aube pointait à l'horizon. Le ciel pâlissait et caressait de ses lueurs blêmes les collines et les arbres environnants. Les aboiements avaient cessé depuis peu.
« Tu peux marcher maintenant ?» demanda-t-elle à Yosp.
Le petit homme recroquevillé sur le rocher semblait plus mort que vif. «
Les heures te disent rien ?» insista Naya.
Elles avaient en tout cas indiqué l'ouverture du tunnel, dissimulée par un pan de mur qui, lorsqu'on appuyait simultanément sur deux pierres, coulissait. Sans la vision de Yosp, sans la loyauté et la résistance de Yézip et Mirad, Pitbus les aurait exécutés avec la même facilité qu'un furet égorge les lapins dans leur terrier. Il leur fallait maintenant trouver une rivière pour déjouer le flair du chien de leur poursuivant et se planquer dans une cachette sûre. Naya secoua l'épaule de Yosp.
« Pitbus et son chien risquent de débouler à tout moment. Faut qu'on dégage d'ici !»«
Je suis fatigué, »
murmura le petit homme.
« Fatigué. »«
Moi aussi. Mais si on reste là, on va se faire saigner comme des poulets !»
Elle le prit par la main et le força à descendre du rocher. Il protesta, mais la suivit, lançant des coups d'œil réguliers par-dessus son épaule en direction de l'entrée du tunnel. Naya ramassa au passage un bout de bois dont l'extrémité brisée pourrait servir d'arme. Ils traversèrent la clairière et s'enfoncèrent dans une végétation dense et blessante constituée de buissons épineux. Naya priait le ciel que les épines ne soient pas vénéneuses. La nature était parfois aussi dangereuse que les hommes en pays hors site. Ils progressèrent avec lenteur au milieu des herbes et des branches. Un aboiement retentit, très proche. Pitbus et son animal avaient gagné du terrain. Naya tourna la tête et aperçut les silhouettes de l'homme et du chien une cinquantaine de mètres derrière eux. La respiration saccadée et sifflante de Yosp indiquait qu'il ne tiendrait pas longtemps à ce rythme. Elle perçut un murmure dans le lointain. Un bruit de chute d'eau.
« Tiens bon, Yosp, y a de la flotte plus loin !»
Sortant des buissons, ils débouchèrent sur une étendue moutonnante de rochers couverts de mousse. Une paroi verticale se dressait devant eux, haute de plus de 100 mètres. Une cascade créait en contrebas une retenue d'eau d'où s'échappait une multitude de petits ruisseaux.
« Par là !»
Pitbus excitait son chien. Yosp poussa un gémissement de terreur et de fatigue. Les fuyards arrivèrent au pied de l'épais rideau tiré par la cascade sur la paroi rocheuse. Indifférente à l'eau, Naya se rapprocha de l'endroit où la chute soulevait une brume épaisse et froide. Il lui sembla entrevoir l'entrée d'une grotte de l'autre côté. Retenant sa respiration, elle passa sous les trombes. La sensation de recevoir des tonnes d'eau sur le crâne et les épaules ne dura que 3 secondes. Elle se retrouva de l'autre côté, face à des rochers qui montaient en marches irrégulières et lisses, vers l'excavation aperçue un peu plus tôt. Elle appela Yosp, mais le grondement empêchait la vigie de l'entendre, et elle traversa la cascade dans l'autre sens. Les yeux de Yosp s'agrandirent de soulagement. Elle lança un regard sur l'étendue moussue, puis, au-delà, sur l'enchevêtrement végétal. Elle entrevit le crâne du second du clan du lynx entre les herbes hautes et les branches entrelacées des buissons.
« Viens vite ! Il y a un abri derrière !
J'ai peur ! »
bêla Yosp.
« Magne-toi, putain, ils vont débouler !»
Yosp se décida enfin. De l'eau jusqu'à la taille, il s'avança à son tour vers la cascade. Il hésitait à franchir le rideau et il fallut que Naya lui prenne la main pour l'entraîner de l'autre côté. Il cria lorsque les chutes lui tombèrent dessus, mais il les passa sans encombre. Ils montèrent avec prudence vers l'entrée de la grotte, leurs pieds glissant sur les rochers polis et humides, leurs mains agrippant les herbes résistantes qui saillaient des interstices. Trempés, ils parcoururent les 10 mètres qui les séparaient de la bouche demi-circulaire. Le bruit de la chute couvrait les aboiements du chien de Pitbus. Naya atteignit la première la plateforme qui bordait l'entrée de la grotte. Elle s'y allongea et agrippa la main de Yosp pour le hisser. Ils s'ébrouèrent avant de se glisser dans l'excavation, sombre et profonde. Yosp grelottait et claquait des dents. Ils retireraient plus tard leurs vêtements pour les mettre à sécher.
Dans la lumière du jour naissant, filtrée par la cascade, ils s'avancèrent entre des piliers aux bases et aux chapiteaux évasés qui émergeaient de la pénombre comme des spectres ventrus.
« J'ai faim !»
gémit Yosp. Naya lui lança un regard excédé.
« Moi aussi, mais je vois rien à bouffer dans le coin !»
Elle avait perdu son bâton dans l'escalade. Elle le regretta, lorsque quelque chose bougea dans l'obscurité et qu'un grondement sourd enfla comme un roulement de tonnerre entre les parois de la grotte.
Là, des coups donnés et des coups reçus, Dronka essuya le sang de son visage. Une fois les chargeurs épuisés rapidement, la bataille s'était poursuivie et achevée à l'arme blanche. Il devrait commander sans tarder une nouvelle réserve de munitions aux Vulcains, un clan que tout le monde respectait à Trois-Aubes, car seul spécialiste du fer et de la poudre, et seul capable de fabriquer des balles pour les différents types d'armes. Bien qu'il ait vaincu les clans coalisés contre le Lynx, bien que leur chef ait été tué, bien que la tête rongée par la maladie de Graar soit désormais clouée sur la porte de sa propre maison, bien que le Lynx conforte sa position dans Trois-Aubes, et ce grâce au renfort inespéré du puissant clan des Égouts, Dronka n'en tirait aucun orgueil, aucune satisfaction. Il n'avait pas su préserver la paix. Il avait tué un grand nombre d'hommes dans la force de l'âge alors que les populations hors site tentaient désespérément de croître. Fourbu, il se laissa choir sur le siège monumental du vestibule tandis que ses hommes fêtaient bruyamment la victoire en s'abreuvant d'alcool frelaté dans la grande salle d'audience.
« Je peux te parler ?»
Dronka leva les yeux sur Kalp, les cheveux maculés de sang, l'un des combattants les plus courageux et les plus efficaces du Lynx. D'un geste de la main, il l'invita à s'exprimer.
« C'est au sujet de ton neveu, Pitbus. Où est-il encore celui-là ? À la poursuite de la vigie et de la fille. »
Dronka se redressa. « Comment tu sais ça, toi ?
Il m'avait recruté comme homme de main après m'avoir promis monts et merveilles lorsqu'il t'aurait remplacé à la tête du clan. Il s'est allié avec d'autres clans contre nous, il t'a trahi. Il a trahi le Lynx. »
Dronka hocha la tête d'un air triste.
« Je le savais. La vigie me l'avait dit. »
Il a aussi assassiné mon fils unique en faisant croire qu'il avait été agressé par un ours.
« Il m'a demandé de tuer la vigie, » reprit Kalp. « J'ai refusé. »
« Tu sais où il est passé ?»«
Comme la vigie a trouvé l'entrée du souterrain et s'est enfui avec la fille, Pitbus est parti à leur poursuite. »
Les yeux de Dronka s'enfoncèrent comme des lames dans ceux de Kalp.
« Prends trois hommes avec toi, des chiens, et ramène-moi la tête de Pitbus. Je ne veux pas le revoir vivant. »
« Tu continues à me faire confiance ?»
La main du chef du Lynx se posa avec une douceur étonnante sur l'épaule de Kalp.
« J'apprécie ta franchise. Je sais que tu ne me trahiras pas. »
Kalp s'inclina, les yeux mouillés de larmes.
« Je te ramène aussi la vigie ?»«
S'il est encore vivant, oui. »
« Et la fille ?»«
Elle lui est indispensable. »
Kalp salua son chef d'un geste de la main et fonça vers la grande salle où les mâles du clan fêtaient leur victoire. Il devait choisir trois hommes sûrs avant qu'ils ne soient tous ivres.
Geoff observa la maison de Gwenil. Pas sûr que la vieille femme ait échappé au massacre. Sa porte, en partie détruite, claquait contre le chambranle. La blessure à la cuisse de Geoff l'élançait. Le bandage imbibé de sang séché tirait sur sa plaie. Il pesta contre le sort. Alors qu'il venait tout juste de s'élever dans la hiérarchie en gagnant la confiance de Graar, il avait fallu qu'éclate cette satanée guerre. Et il avait fallu que, malgré le pacte conclu avec des alliés puissants, le Perce-Oreille soit vaincu, son chef, décapité, ses biens éparpillés. Lui-même n'avait dû sa survie qu'au hasard providentiel qui avait ouvert une trappe entre ses pieds au moment où il affrontait 5 ou 6 adversaires.
Sitio n'avait pas eu la même fortune. Une balle lui avait perforé le poitrail. Il s'était couché sur le flanc, son poil ras maculé de sang, et avait expiré sans un cri, ni même un gémissement. Geoff avait versé des larmes d'amertume. Il tenait probablement davantage à son chien qu'à sa femme et à ses enfants. Il pénétra dans la maison de Gwenil et déduit aux meubles et ustensiles renversés que les tueurs du clan vainqueur étaient passés par là. Les rayons du soleil levant tombaient en oblique des trous du plafond.
Gwenil !
Cria-t-il sans conviction. Il fut surpris d'entendre une réponse.
« C'est toi, Geoff ?
la vieille femme s'extirpa d'un enchevêtrement de meubles et de tissus. « Ils ne t'ont pas trouvé ?» Gwenil remit de l'ordre dans sa chevelure et sa tenue.
« Qui ça, ils ?»«
Les tueurs du lynx ou des égouts. »«
Ils ont gagné ? » ?»«
T'étais pas au courant ?» Geoff désigna l'intérieur de la maison d'un large geste de bras.
« Qui t'a fait ça, alors ?»« Ézoc, le guérisseur. Il cherchait deux lunes. »
Sa douleur à la cuisse contraignit Geoff à ramasser une chaise et à s'y asseoir.
« Que sont devenus ta femme et tes enfants ?» demanda Gwenil.
« J'en sais foutre rien, je suis pas encore rentré chez moi. J'ai dégringolé dans une fosse pendant la bataille, et cette foutue blessure m'a empêché de retourner me battre. »
Gwenil se pencha sur la cuisse de Geoff. « Faudrait soigner la plaie avant qu'elle s'infecte. »
Elle se releva et disparut dans une petite pièce annexe, d'où elle revint quelques instants plus tard avec un flacon de verre.
« T'as des nouvelles de Delune ?»
Elle secoua la tête en ouvrant le flacon.
« Cette tête de mule s'est sans doute rendue à la maison de Dronka, le chef du lynx, avant qu'Ézoc et ses deux gorilles débarquent ici. Il pensait connaître la nouvelle vigie et la fille qui l'accompagnait.
Il s'est jeté dans la gueule du loup, toujours à cause de cette fille. » Gwenil se pencha de nouveau sur la blessure de Geoff et défit le bandage de fortune passé directement sur son pantalon de cuir.
« Pas très beau. On dirait qu'on t'a entaillé avec un morceau de fer rouillé. »«
Y a de ça, » marmonna Geoff. « J'ai été frappé par un égoutier. Ces gars-là utilisent n'importe quel bout de métal qu'ils remontent des égouts et qu'ils taillent grossièrement. »
Gwenil élargit la déchirure du pantalon pour accéder à la blessure. Elle la nettoya ensuite avec un bout de chiffon imbibé du liquide ambré contenu dans le flacon.
« Ça va brûler !»
Il eut beau être prévenu, il ne put s'empêcher de pousser un gémissement lorsque le produit entra en contact avec sa chair à vif.
« C'est quoi ton truc, ça arrache ?»
Une préparation à base de plantes et d'alcool fort. Elle désinfecte et aide à la cicatrisation.
Un remède d'Ézoc ? T'es fou ! J'ai aucune confiance en ce salopard !
Une recette que je tiens de ma mère.
Elle badigeonna abondamment la plaie avant de refaire un bandage propre et bien serré.
Qu'est-ce qu'on va devenir ? Murmura-t-elle d'une voix plaintive.
De pauvres bougres dépourvus de protection, répondit Geoff.
Maintenant que la tête de Grahar a été clouée à sa porte, plus personne dans Trois Aubes nous viendra en aide. Je vais essayer de retrouver les miens, puis de partir à Sigrand, la communauté où vit ma sœur.
C'est loin ?
Une trentaine de kilomètres.
Gwenil se redressa et effectua quelques pas pour décontracter ses muscles endoloris par sa longue et inconfortable nuit.
Personne ne les attaque, ni clan, ni tribu sauvage ?
Ils vivent dans une ancienne forteresse, difficile d'accès, et savent se défendre.
Et toi ? Que vas-tu faire ?
Gwenil haussa les épaules d'un air fataliste.
Qui va s'encombrer d'une vieille bonne femme comme moi ? Je resterai ici en espérant qu'on m'oubliera. Je vaux pas grand-chose à la crier, mais il y en a qui voudront me piquer ma maison.
Grahar a été fou de se laisser entraîner dans cette guerre.
Les gens sont tous en train de devenir dingues à Trois Aubes, soupira Geoff.
J'ai connu qu'un seul gars sensé au cours de ma chienne de vie. Deux lunes.
Gwenil acquiesça de tout son corps.
« Il est le fils que j'aurais aimé avoir. »
Elle alla ranger son flacon dans le réduit, puis revint près de Geoff, toujours assis sur sa chaise.
« Reste le temps que tu récupères et que tu puisses marcher normalement. »
Geoff se leva et se dirigea vers la porte en boitant.
« Merci de ton offre, mais j'ai déjà trop tardé. Faut maintenant que je sache ce que sont devenus les miens. »
Elle pointa l'index sur le côté du visage de son interlocuteur.
« Tu feras pas 10 mètres dans Trois Aubes avec cet anneau à l'oreille !»
Geoff demeura quelques secondes immobile dans l'entrebâillement de la porte.
Delune dirait que ça sert à rien de s'en faire, qu'on ne peut de toute façon pas échapper à son destin. Bonne chance à toi, Gwenil.
Il s'éloigna dans la ruelle. Au bout de quelques secondes, des vociférations et des cliquetis retentirent. Gwenil comprit, au long hurlement qui suivit, qu'il n'avait même pas eu le temps de parcourir 10 mètres.
Delune n'avait qu'à suivre les empreintes de Pitbus et de son chien. Elle se mêlait à celles de Naya et de Yosp. Le vieillard avait relevé son fusil lorsqu'une vingtaine d'hommes s'étaient engouffrés dans le jardin intérieur, des membres du clan du Lynx qui, dès l'annonce de la défaite des clans coalisés, s'étaient rassemblés dans la maison de Dronka pour célébrer leur victoire. Emporté par le joyeux tourbillon, le vieillard avait planté là Delune, qui avait pu reprendre son exploration. Il avait découvert la pièce où Naya et Yosp avait été enfermé, puis l'ouverture du souterrain dans le mur, et s'était lancé sur leurs traces. Aiguillonné par la perspective de revoir Naya, il avait marché bon train dans le tunnel, essayant de rattraper son retard sur Pitbus. Il regrettait de ne pas avoir gardé le couteau avec lequel il avait achevé le vieil homme cloué sur la porte. Il avait déjà violé à plusieurs reprises le serment du haut lieu, et il traversait un pays qui ne respectait pas les guérisseurs, un pays où il n'était guère facile de survivre sans armes. Retardé par la traversée de la rivière souterraine, il avait ensuite accéléré l'allure. Il apercevait maintenant le cercle clair de la sortie du souterrain. Il sortit dans la clairière sillonnée par les empreintes des fuyards et de leurs poursuivants. Après plusieurs centaines de mètres de marche dans une herbe brune et probablement toxique, il atteignit l'orée d'une forêt de buissons épineux et d'herbes hautes enchevêtrées. Il n'eut qu'à s'engager dans le sentier déjà tracé, tout en veillant à ne pas être piqué par les épines des branches flexibles. Le soleil se levait dans un déploiement fastueux de couleurs mauves et pourpres. Croyant entendre au loin des cris et des aboiements, il se mit à courir, au mépris des épines et de la fatigue qui lui engourdissaient les muscles. La forêt de buissons débouchait sur un vallonnement rocheux bordé d'une haute muraille qui barrait l'horizon. L'herboriste fut étonné de la couleur vert émeraude des mousses habillant les pierres. Un grondement prolongé attira son attention. Une cascade tombait du haut de la muraille pour s'écraser une centaine de mètres plus bas dans un jaillissement d'écume et de brume. Les traces conduisaient au bassin de rétention bordé d'un muret naturel d'où s'échappaient plusieurs ruisseaux. Il fit le tour de la retenue, ne repéra aucune autre empreinte et déduisit que les fuyards et leurs poursuivants étaient passés de l'autre côté de la chute. Enjamba le muret et, de l'eau jusqu'à mi-cuisse, s'avança au pied des rideaux tirés par la chute. Il les traversa, sans hésitation. Des tonnes d'eau s'abattirent sur son crâne et ses épaules. Mais la sensation ne dura que 2 ou 3 secondes. Il fit face à des rochers qui montaient en escalier vers l'entrée d'une grotte. Les aboiements retentirent de nouveau, entrecoupés de hurlements et de grondements. Un ours, sans doute. De l'une se hâta tout en faisant attention à ne pas glisser sur les rochers humides.
« Attaque, Reikato !»
La voix avait dominé le fracas de la cascade qui absorbait en partie les bruits confus de lutte. Une détonation éclata comme un coup de tonnerre quelques mètres au-dessus de lui.